Chapitre 76. Charleston, mardi 16 juin 1981. Aidés par un vent favorable et par les talents de navigateur de leur pilote, ils atteignirent l'aérodrome de Meeks trois quarts d'heure avant le lever du soleil. La jauge d'essence indiquait le zéro depuis 15 km lorsque le Cessna se posa en douceur entre deux rangées de balises. Saul ne se réveilla pas lorsqu'ils l'installèrent sur une civière pliante que Meeks conservait dans son hangar. « Il nous faut un deuxième véhicule, » dit Nathalie alors que les deux hommes descendaient le psychiatre de l'avion. « Est-ce que celui-ci est à vendre ?» Elle indiqua un minibus Volkswagen vieux de 12 ans, garé à côté du 4x4 flambant neuf de Meeks. « Mon Electric Kool-Aid Express ?» dit le pilote. « Pourquoi pas ?»« Combien ?» demanda Nathalie. On apercevait des motifs psychédéliques sous la peinture verte écaillée de la carrosserie, mais l'arrière du véhicule était assez vaste pour accueillir la civière, et ses fenêtres étaient pourvues de rideaux, ce qui risquait de s'avérer fort utile. $500 ?
Adjugé.
Pendant que les deux hommes attachaient la civière sur la banquette placée derrière le siège du conducteur, Nathalie fouilla dans le break en quête des $900 en petites coupures que Saul avait cachées dans ses chaussures de rechange. C'était leur dernière réserve. Elle chargea sac et valise dans le minibus. Jackson se tourna vers elle sans cesser de prendre la tension artérielle de Saul. « Pourquoi deux voitures ?»«
Je veux le confier à une équipe médicale le plus vite possible. Est-ce qu'il est dangereux de le conduire à Washington ?»«
Pourquoi Washington ?» Nathalie sortit une chemise cartonnée de l'attaché-case de Saul.
« Il y a là-dedans une lettre de... d'un parent de Saul. Elle nous permettra d'obtenir l'assistance de l'ambassade d'Israël. C'était notre dernière carte, pour ainsi dire. » Si nous le confions à un médecin ou à un hôpital de Charleston, ses blessures par balles seront signalées à la police. Inutile de courir ce risque si on peut l'éviter.
Jackson s'accroupit sur la pointe des pieds et hocha la tête. Il prit le pouls de Saul. Ouais, on doit pouvoir aller jusqu'à Washington, à condition de ne pas trop tarder à le soigner.
On s'occupera de lui à l'ambassade.
Il faut l'opérer, Nat.
Il y a une salle d'opération à l'ambassade.
Ah ouais? Bizarre. Il écarta les bras, paume tendue vers le ciel. Bon, alors pourquoi tu ne viens pas avec nous?
Je vais aller récupérer Poisson-Chat.
On peut le prendre en chemin avant de quitter la ville.
Il faut aussi que je me débarrasse du C4 et du matériel électronique. Pars devant, Jackson. Je te rejoindrai à l'ambassade avant ce soir.
Jackson la regarda un long moment avant d'acquiescer. Ils descendirent du minibus et Meeks vint les rejoindre.
« On ne parle pas de la révolution à la radio. Elle ne devait pas se déclencher partout en même temps. »«
Reste à l'écoute, » dit Nathalie.
Meeks opina et prit les $500 qu'elle lui tendait.
« Si la révolution continue comme ça, je risque de faire un joli profit. »«
Merci pour la promenade. »
Nathalie lui serra la main.
« Vous devriez changer de métier si vous voulez jouir de la vie après la révolution. Restez cool. »
Le pilote regagna son mobilhome en sifflotant un air indéchiffrable.
« Rendez-vous à Washington, » dit Nathalie en serrant la main de Jackson avant de monter dans le break.
Il la prit par les épaules, la serra contre lui et l'embrassa sur la bouche. « Sois prudente, bébé. Tu n'es pas obligée de foncer dans le tas toute seule. On peut attendre que Saul soit en sécurité pour s'en occuper tous les trois. » Nathalie hocha la tête, mais n'osa pas lui répondre de vive voix. Elle se hâta de sortir de l'aérodrome et s'engagea sur la route de Charleston. Elle avait quantité de tâches à accomplir, mais ne devait pas pour autant lever le pied. Sur le siège avant, elle disposa la cartouchière chargée de C4, le moniteur et les électrodes, la petite radio, le Colt et deux chargeurs de rechange, le pistolet à fléchette, ainsi qu'une boîte de munitions. Sur la banquette arrière, se trouvait le reste du matériel électronique et, dissimulé sous une couverture, une hache que Saul et elle avaient achetée le vendredi précédent. Nathalie se demanda quelles seraient les réactions d'un flic découvrant cet attirail après l'avoir arrêté pour excès de vitesse. La nuit faisait place à la pénombre grisâtre que son père appelait la fausse aurore. Mais une épaisse masse nuageuse occultait le soleil levant et tous les réverbères étaient encore allumés. Nathalie s'engagea lentement dans les rues du vieux quartier, le cœur battant la chamade. Elle s'arrêta à moins d'une rue de la maison Fuller et lança un couinement radio, n'obtenant aucune réponse. Finalement, elle appuya sur le bouton d'appel et dit « Poisson-chat, tu es là ?» Rien. Au bout de quelques minutes, elle passa devant la maison, mais ne vit rien dans la ruelle où Poisson-chat était censé faire le guet. Elle posa la radio sur le siège, espérant que l'adolescent s'était endormi, était parti à leur recherche, ou avait été arrêté pour vagabondage. La maison et la cour étaient plongées dans l'obscurité. L'eau goûtait encore des arbres arrosés par la tempête durant la nuit. Mais une faible lueur verte filtrait à travers les volets du premier étage. Nathalie fit lentement le tour du pâté de maison. Son cœur battait à lui en faire mal. Sa peau était moite et ses mains trop faibles pour se refermer. Le manque de sommeil lui donnait des vertiges. Il était absurde d'y aller seule. Elle devrait attendre que Saul soit rétabli, que Jackson et Poisson-chat l'aident à élaborer un plan. Il serait tellement plus sensé de faire demi-tour et d'aller à Washington, loin de cette maison sombre tapie dans les ténèbres, qui émettait une faible lueur verte, comme des champignons phosphorescents poussant dans le coin le plus reculé de quelque forêt sinistre. Nathalie laissa le moteur tourner au ralenti, s'efforçant de contrôler son souffle paniqué. Elle posa son front sur le volant froid et s'obligea à réfléchir en dépit de sa fatigue. Comme Rob lui manquait. Rob aurait su quoi faire. Son épuisement était sûrement responsable des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle se redressa brusquement et s'essuya le nez d'un revers de main. « Jusqu'ici, pensa-t-elle, tout le monde s'était défoncé pour mettre fin à ce cauchemar, sauf la petite Miss Nathalie. Rob était mort à la tâche. Saul s'était rendu sur l'île tout seul. Tout seul, sachant qu'elle abritait 5 de ces monstres. Jack Cohen avait voulu les aider et en était mort. Même Mix, Jackson et Poisson-chat avaient fait plus que leur part de boulot, obéissant sans broncher aux ordres de la petite Miss Nathalie. Au fond de son cœur, elle savait que Mélanie Fuller aurait disparu s'ils attendaient encore quelques heures. Peut-être même était-elle déjà partie. Nathalie serra le volant à s'en faire blanchir les phalanges. Elle obligea son esprit harassé à analyser ses motivations. Elle savait que sa propre soif de vengeance avait été émoussée par le temps, par les événements, par le cauchemar de ces 7 derniers mois. Elle n'avait plus grand-chose de commun avec la jeune femme qui, par un lointain dimanche de décembre, avait trouvé porte close chez l'entrepreneur de pompes funèbres, sachant que le corps de son père gisait entre 4 murs et jurant de châtier son assassin inconnu. Contrairement à Saul, elle n'était plus motivée par la quête d'une improbable justice. Nathalie contempla la maison Fuller, distante d'un demi-pâté de maison, et se rendit compte que la force qui la motivait désormais ressemblait davantage à l'impératif qui l'avait poussée à devenir enseignante. Laisser vivre Mélanie Fuller équivaudrait à fuir une école où un serpent venimeux rôdait parmi les enfants inconscients de sa présence. Les mains de Nathalie tremblaient lorsqu'elle passa autour de sa taille la cartouchière chargée de C4. Le moniteur avait besoin de piles de rechange, et elle s'affola en se rappelant qu'elle les avait laissées dans le minibus. Elle ouvrit maladroitement la petite radio et transféra ses piles dans le moniteur. 2 des électrodes refusèrent de se fixer à son cuir chevelu. Elle les laissa pendre, puis relia le moniteur au détonateur. Celui-ci était muni d'un dispositif électrique, mais aussi d'une mise à feu mécanique en cas de mauvais fonctionnement, et Saul et elle avaient également prévu une mèche qui brûlerait 32 secondes avant de le déclencher. Un goût de bile dans la bouche, elle fouilla ses poches à la recherche d'un briquet, mais celui qu'elle portait depuis si longtemps avait dû rester sur l'île avec le contenu de son sac. Elle fouilla dans la boîte à gants. Coincée entre 2 cartes, se trouvait une pochette d'allumettes ramassée dans un restaurant de Tulsa. Aucune n'avait été craquée. Elle les fourra dans sa poche. Nathalie jeta un coup d'œil aux objets posés sur le siège et passa en prise sans cesser d'appuyer sur le frein. Alors qu'elle avait 7 ans, une amie l'avait mise au défi de sauter du plus haut plongeoir de la nouvelle piscine municipale. Ce plongeoir, le plus haut des six, placé 3 mètres au-dessus du deuxième, se trouvait sur une tour réservée aux adeptes chevronnés du plongeon. Nathalie savait à peine nager. Mais elle était immédiatement sortie du petit bain, était passée d'un pas assuré près d'un maître nageur, trop occupé à baratiner une adolescente pour faire attention à une fillette, avait gravi l'interminable échelle, était allée au bout de la planche étroite et avait sauté vers une piscine si lointaine qu'elle semblait rétrécie par la distance. Tout comme aujourd'hui, Nathalie avait su que réfléchir signifiait renoncer, que le seul moyen de réussir était de se vider l'esprit, de ne penser à une action que lorsqu'elle était engagée. Mais lorsqu'elle accéléra dans la rue silencieuse, elle eut la même pensée qu'il avait habitée au moment où elle avait sauté du plongeoir, sachant qu'il était impossible de revenir en arrière. « Je suis vraiment en train de faire ça ?» Depuis le retour de la vieille dame, la cour était protégée par un mur de briques haut de près de 2 mètres et surmonté d'une grille en fer forgé haute de plus d'un mètre. Mais on avait conservé le portail d'origine, flanqué de garnitures en fer forgé. Le portail était fermé par une chaîne, mais ne semblait pas solidement coulé dans le ciment. Le break roulait à 50 km/h lorsque Nathalie vira sèchement à droite, rebondit sur le trottoir et défonça la garniture. Le portail s'effondra sur le pare-brise, l'étoilant d'une myriade de fractures. Le pare-choc avant accrocha la fontaine décorative et fut arraché à la voiture, qui glissa le long de la cour, écrasa buissons et arbustes, et acheva sa course sur la façade de la maison. Nathalie avait oublié d'attacher sa ceinture. Elle se cogna la tête au pare-brise et retomba violemment sur son siège, des étoiles dans les yeux et de la bile dans la gorge. Pour la 2e fois en 3 heures, elle s'était mordu la langue jusqu'au sang. Les armes qu'elle avait soigneusement disposées sur le siège à côté d'elle étaient éparpillées sur le tapis de sol.
« Ça commence bien !»
se dit-elle encore secouée. Elle se pencha pour récupérer le colt et le pistolet à fléchette. Les munitions de ces deux armes avaient glissé quelque part sous le siège. Et puis merde, les deux pistolets étaient bien chargés. Elle ouvrit la portière d'un coup de pied et émergea dans la grisaille qui précédait l'aube. On n'entendait que l'eau qui jaillissait de la fontaine fracassée et celle qui coulait du radiateur en miettes, mais elle était sûre d'avoir fait assez de bruit pour réveiller la moitié du pâté de maison. Elle n'avait que quelques minutes pour accomplir ce qu'elle avait à faire. Nathalie avait compté défoncer la porte grâce aux 1500 kilos de son automobile, mais elle avait manqué son but de 50 centimètres. Elle passa le colt à sa ceinture, serra le pistolet à fléchette dans sa main droite et tourna le loquet. Peut-être que Mélanie allait lui faciliter la tâche. La porte était fermée. Elle se rappela y avoir aperçu toute une batterie de verrous et de chaînes. Elle posa le pistolet à fléchette sur le toit du break, attrapa la hache sur la banquette arrière et attaqua les charnières de la porte. Au 6e coup, un mélange de sueur et de sang lui coulait dans les yeux. Au 8e coup, le bois commençait à se fendre. Au 10e coup, la porte céda et s'affaissa, retenue au chambranle par les verrous et les chaînes. Nathalie reprit son souffle, résista de nouveau à son envie de vomir et jeta la hache dans les buissons. Toujours aucun bruit de sirène dans la rue, aucun bruit de mouvement dans la maison. La lueur verte émanant de l'étage éclairait la cour de ton maladif. Nathalie dégaina le colt et l'arma, se rappelant qu'il lui restait 7 cartouches dans le chargeur, une balle ayant été tirée par mégarde à bord du Cessna. Elle récupéra le pistolet à fléchette et s'immobilisa 1 seconde, une arme dans chaque main, se sentant ridicule. Son père aurait dit qu'elle ressemblait à Hoot Gibson, son cow-boy préféré. Nathalie n'avait jamais vu un seul film de Hoot Gibson, mais c'était aussi son cow-boy préféré. Elle poussa la porte d'un coup de pied et entra dans le hall obscur, ne pensant ni à ce qu'elle ferait ensuite, ni à ce qu'elle ferait après. Elle était stupéfiée de constater que son cœur pouvait battre si fort sans jaillir de sa poitrine. Poisson-chat était assis à califourchon sur une chaise, 2 mètres derrière la porte. Ses yeux morts regardaient Nathalie sans la voir, et une pancarte était suspendue par une ficelle à sa bouche béante. La faible lueur provenant de la cour permettait de déchiffrer les lettres malhabilement tracées au stylo feutre.
« Va-t'en !»«
Peut-être qu'elle est partie. Peut-être qu'elle est partie !» pensa Nathalie en contournant Poisson-Chat pour se diriger vers l'escalier. Marvin jaillit de la salle à manger sur sa droite, une seconde avant que Cullen apparaisse sur le seuil du salon à sa gauche. Nathalie logea une fléchette dans la poitrine de Marvin et laissa choir le pistolet à présent inutile. Puis elle leva la main gauche pour agripper le poignet droit de Marvin avant que le couteau de boucher qu'il tenait n'achève de décrire son arc meurtrier. Elle réussit à ralentir sa descente, mais sa pointe s'enfonça d'un centimètre dans son épaule, pendant qu'elle dansait maladroitement avec l'ex-chef de bande, que les bras nus de Quelet se refermaient sur eux comme un étau. Nathalie sentit les mains du géant se croiser dans son dos, sut qu'il ne mettrait que 2 secondes à lui briser l'échine, glissa le colt sous le bras gauche de Marvin, plongea le canon dans le ventre mou de Quelet et tira à 2 reprises. Le bruit des détonations fut étouffé de façon obscène. Le visage inexpressif de Quelet ressembla brièvement à celui d'un enfant contrarié. Son étreinte se relâcha, et il recula en trébuchant, s'agrippant au chambranle de la porte du salon comme si le plancher était soudain devenu vertical. Résistant à la force qui le poussait vers la pièce voisine, faisant craquer le bois de la seule force de son biceps, il entreprit de gravir le mur imaginaire qui avait remplacé le plancher et avança lentement vers Nathalie, tendant le bras droit comme pour s'agripper à elle. Nathalie cala son arme sur l'épaule sous d'un flasque de Marvin et tira à 2 nouvelles reprises. La première balle transperça la paume de Quelet avant de se loger dans son ventre, la seconde lui arracha le lobe de l'oreille gauche, comme par magie. Nathalie s'aperçut qu'elle pleurait et hurlait « Tombe ! Tombe !» Quelet ne tomba pas, mais agrippa de nouveau le chambranle, avant de s'asseoir lentement, suivant le même rythme que la chute au ralenti de Marvin. Le couteau tomba sur le sol. Nathalie saisit la tête du jeune noir avant qu'elle ne heurte le parquet ciré. Elle l'étendit au pied de Poisson-Chat et se redressa aussitôt, pivotant pour couvrir de son arme la porte de la salle à manger et le petit couloir conduisant à la cuisine. Rien. Haletante, toujours sanglotante, elle gravit le long escalier. Elle appuya sur un interrupteur. Le chandelier de cristal fixé au plafond de l'entrée refusa de s'allumer, et le palier de l'étage resta plongé dans l'ombre. Au bout de 5 marches, elle distingua la lueur verte qui rampait sous la porte de la chambre de Mélanie Fuller. Nathalie s'aperçut que ses sanglots s'étaient transformés en petits gémissements. Elle les refoula. À 3 marches du palier, elle déboucla sa cartouchière et la passa autour de son bras gauche, plaçant le détonateur mécanique à portée de sa main. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour l'enclencher. Le voyant vert clignotait toujours. L'appareil était toujours relié à l'explosif. Elle resta immobile pendant 20 secondes, laissant à la vieille le temps de passer à l'action si tel était son plan. Silence. Nathalie scruta le palier. Un fauteuil en osier bentwood était placé à gauche de la porte de la chambre. Nathalie sut aussitôt, avec une certitude irrationnelle, que c'était là que Mr. Thorne avait monté la garde lors de ses nombreuses veilles. Elle ne distinguait rien au bout du couloir qui conduisait vers l'arrière de la maison. Entendant un bruit au rez-de-chaussée, elle pivota vivement mais ne vit que les 3 corps. Quelet était tombé en avant, heurtant de son front le parquet ciré. Elle se retourna, leva son arme et posa le pied sur le palier. Elle s'attendait qu'on bondisse sur elle depuis le couloir obscur. Elle était prête, et elle faillit tirer dans les ténèbres lorsque rien ne vint. Le couloir était désert, les portes fermées. Nathalie se tourna vers la porte de la chambre de Mélanie, le doigt crispé sur la détente, le bras gauche tendu et ployant sous la lourde cartouchière. Elle perçut le tic-tac d'une horloge quelque part au rez-de-chaussée. Peut-être fut-ce un bruit qui l'alerta,
ou un courant d'air caressant sa joue, mais un signal subliminal la poussa à lever la tête vers le plafond peuplé d'ombre et le carré noir qui s'y découpait. Une trappe accédant au grenier, encadrant un corps tendu, prêt à bondir sur elle. Une tête d'enfant au sourire dément, des griffes métalliques qui accrochaient la pâle lueur verte. Nathalie tira au moment même où elle tentait de s'écarter. Mais Justin fondit sur elle en sifflant. La balle se planta dans le bois et les griffes d'acier lui labourèrent le bras droit, lui arrachant le colt des doigts. Elle recula en chancelant, leva le bras gauche pour se protéger. Chaque année à l'époque de Halloween, la petite Nathalie avait l'habitude d'aller à l'épicerie du coin pour s'acheter des griffes de sorcière, de faux ongles en cire longs de 10 centimètres qu'elle se fixait au bout des doigts. C'était de tels ongles que portait Justin. Mais les siens étaient des lames de scalpel. Elle imagina Kelley, ou un autre pion de Mélanie, en train de façonner des timbales d'acier, d'y souder les lames et de les emplir de plomb fondu, et vit l'enfant plonger les doigts dans le métal liquide, puis attendre qu'il ait séché et durci. Justin bondit sur elle. Nathalie s'adossa au mur et garda le bras levé. Les griffes de Justin s'enfoncèrent dans la cartouchière, déchirant toile, plastique et explosif. Nathalie serra les dents lorsqu'elle sentit au moins 2 lames se planter dans sa chair. Poussant un cri de triomphe inhumain, Justin lui arracha la cartouchière et la jeta par-dessus la balustrade. Nathalie entendit un bruit sourd lorsque les 6 kilos d'explosifs inertes atterrirent au rez-de-chaussée. Elle baissa les yeux, vit le colt reposant entre 2 barreaux de la balustrade. Elle fit un pas dans cette direction, mais se figea aussitôt lorsque Justin la devança, bondissant vers le pistolet et l'envoyant valser dans le vide d'un coup de quède. Nathalie feinta vers la gauche, s'élança vers la droite, tenta de se précipiter vers l'escalier. Justin lui bloqua le passage, la força à reculer, mais elle eut le temps d'apercevoir la masse de Kelley sur les marches. Il avait couvert 1/3 de la distance qui les séparait. Il laissait derrière lui un sillage écarlate. Nathalie se retourna pour foncer dans le couloir, mais se ravisa, persuadée que c'était ce que la vieille attendait. Dieu seul savait ce qui se tapissait dans ces pièces obscures. Justin se précipita vers elle, toute griffe dehors. Nathalie acheva de faire demi-tour, saisissant de sa main ensanglantée le fauteuil en osier. Un de ses pieds s'encastra dans la bouche de Justin, lui brisant 2 dents, mais le petit garçon n'hésita pas 1 seconde et avança en battant des bras comme une créature possédée du démon. Ses lames labourèrent les pieds, arrachèrent l'osier du siège. Puis il s'accroupit et bondit, visant les jambes de Nathalie, cherchant à atteindre l'artère fémorale. Elle abattit le fauteuil sur lui, tentant de le clouer au plancher. Il était trop rapide. Les griffes d'acier ratèrent sa cuisse de 2 centimètres, et il esquiva son attaque avec souplesse. Il feinta sur la droite, bondit sur la gauche, abattit ses griffes, se déroba, fonça de nouveau. Les semelles de ses quèdes couinaient sur le parquet. Nathalie esquiva chacune de ses attaques, mais elle sentait déjà ses bras succomber à la fatigue et à la perte de sang. La griffe qui s'était plantée dans son bras gauche semblait l'avoir ouvert jusqu'à l'os. Elle ne cessait de reculer et se trouvait à présent plaquée contre la porte de la chambre de Mélanie Fuller. Une partie perverse de son esprit lui montrait la porte s'ouvrant brusquement derrière elle, des mains squelettiques tendues pour la recevoir, des dents qui claquaient en s'approchant de sa gorge. La porte resta fermée. Justin se tendit et sauta sur elle, encaissant les coups qu'elle lui assénait à la gorge et à la poitrine, battant furieusement des bras pour l'atteindre aux mains, aux bras, aux seins. Ses bras étaient trop courts de 2 centimètres pour y parvenir. Justin planta ses griffes dans l'armature du fauteuil et tira dessus, tentant de le lui arracher des mains ou de le casser. Les échardes volaient, mais le siège tenait. Quelque part au sein de la panique qui avait envahi l'esprit de Nathalie, un noyau de calme tentait de lui envoyer un message. Elle entendait presque la voix posée, à la limite de la pédanterie de Saul. Le monstre utilise un corps d'enfant, Nathalie. La masse est l'organisme d'un garçon de 6 ans. Mélanie n'a que la peur et la colère comme armes. Tu as ta taille et ton poids. Ta masse et ton envergure. Ne les gaspille pas.
Justin siffla comme une bouilloire sur le point d'exploser et se lança de nouveau à l'assaut, s'accroupissant au ras du sol. Nathalie vit le crâne chauve de Kelley apparaître au bord du palier. Elle encaissa le choc, tendit le fauteuil devant elle, rassembla toutes ses forces et poussa. Justin se retrouva coincé entre les pieds du siège et plaqué contre la balustrade. Celle-ci craqua, mais tint bon. Souple comme un singe, vif comme un chat sauvage, Justin sauta sur la rambarde large de 15 centimètres, trouva son équilibre en 1 seconde et se prépara à sauter sur elle depuis son perchoir. Sans hésiter 1 seconde, Nathalie fit un pas vers lui, saisit le fauteuil comme si c'était une batte de baseball et frappa Justin de toutes ses forces, l'envoyant voler dans les airs comme une balle de chair et de sang. Un même cri jaillit des gorges de Justin, de Kelley et de tous les zombies tapis derrière la porte de la chambre, mais l'enfant démon avait la peau dure. Échevelé, arc-bouté dans le vide, Justin saisit le chandelier massif qui se trouvait juste au-dessous du niveau du palier. Ses griffes d'acier se refermèrent sur la chaîne qui le retenait. Ses pieds firent tinter le cristal, déclenchant un chaos musical, et l'instant d'après, il grimpait sur le chandelier, oscillant 5 mètres au-dessus du sol. Nathalie laissa retomber la chaise, incrédule. La main de Kelley se posa sur la dernière marche, et il continua de se hisser. Une horrible grimace déforma le visage de Justin, et il accentua ses oscillations, tendant les griffes de son bras gauche vers la balustrade qui se rapprochait un peu plus à chaque mouvement. À son apogée, au moins 1 siècle plus tôt, le chandelier aurait supporté sans broncher 10 fois le poids de Justin. La chaîne de fer et les montants de fer en étaient encore capables. Mais la poutre qui soutenait l'ensemble avait souffert pendant plus 1 siècle de l'humidité, des insectes et de la négligence. Justin et le chandelier disparurent à la vue de Nathalie, suivis par une masse de plâtre, de fils électriques, de fer et de bois pourri. Le bruit de l'impact fut impressionnant. Des éclats de cristal frappèrent les murs, comme si on avait lancé une grenade de verre. Nathalie aurait voulu descendre récupérer le Colt et le C4, mais elle savait qu'ils étaient enfouis sous la masse de débris qui emplissait l'entrée.
« Mais que fait la police? Qu'est-ce que c'est que ce quartier ?»
Nathalie se rappela que la plupart des maisons voisines n'étaient pas éclairées lors de ses précédentes visites, que leurs habitants étaient vieux ou absents. Son arrivée avait été bruyante et spectaculaire, mais peut-être n'avait-on pas remarqué sa voiture? Peut-être n'avait-on pas localisé le bruit? Et les hauts murs de briques rendaient la cour invisible depuis la rue. Peut-être avait-on entendu les coups de feu qu'elle avait tirés, mais la végétation tropicale du quartier avait tendance à étouffer et à déformer les bruits. Peut-être que les gens avaient peur de se mêler des affaires des autres. Elle regarda sa montre couverte de sang. Moins de 3 minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait franchi la porte.
« Oh mon Dieu !» pensa-t-elle.
Kelley se dressa sur le palier. Ses yeux pâles de débile se posèrent sur ceux de Nathalie. Pleurant en silence, elle leva le fauteuil et frappa Kelley à la tête, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un des pieds se cassa et rebondit sur le mur. Kelley redescendit 5 marches en glissant, se cognant le menton à chacune d'elles. Nathalie vit son visage en sang se redresser, ses membres frémirent, et il reprit son ascension. Elle pivota et attaqua la lourde porte avec le fauteuil.
« Va au diable, Mélanie Fuller !»
hurla-t-elle à plein poumon. Au 4e coup, le fauteuil tomba en pièces, et la porte s'ouvrit doucement. Elle n'était pas fermée à clé. Les volets fermés, les rideaux tirés, ne laissaient filtrer qu'une infime partie de la lumière d'avant l'aube. Les oscilloscopes et le reste du matériel électronique badigeonnait les occupants de la chambre d'une pâle lueur verte. L'infirmière Old Smith, le docteur Hartman et Nancy Warden, la mère de Justin, se dressaient devant Nathalie, lui bloquant l'accès au lit. Tous trois portaient une blouse blanche souillée et arboraient la même expression. Une expression que Nathalie n'avait vue que dans des documentaires sur les camps de la mort, chez les survivants qui fixaient leur libérateur derrière les barbelés, les yeux exorbités, la mâchoire pendante, l'image même de l'incrédulité. Derrière cet ultime rempart se trouvait le lit et son occupante. C'était un lit à baldaquin aux rideaux de dentelle, dont l'occupant n'était que vaguement visible sous une tente à oxygène, mais Nathalie n'avait nulle peine à distinguer la silhouette flétrie enfouie dans les draps, le visage ridé, difforme, l'œil fixe, la courbe du crâne tavelée et frangée de rares cheveux bleus, le bras droit squelettique gisant sur les couvertures, les doigts longilignes griffant spasmodiquement drap et couvre-lit. La vieille s'agitait faiblement sur sa couche, et Nathalie pensa à nouveau à une créature marine à la peau suintante, extraite de son élément. Elle regarda vivement autour d'elle, s'assurant que personne n'était caché derrière la porte ou dans le couloir. À sa droite se trouvait une antique commode surmontée d'un grand miroir piqueté. Sur une coiffeuse jaunie par les ans, étaient soigneusement disposés un peigne et une brosse. Des mèches de cheveux bleus y étaient accrochées. À gauche, elle vit une pile de plateaux, de tasses et d'assiettes sales, plusieurs tas de draps souillés hauts d'un mètre ou plus, une immense armoire à la porte ouverte sur des étagères en désordre, des instruments médicaux gisant dans la poussière, et quatre bonbonnes d'oxygène posées sur des chariots à roulettes. Les seaux de deux de ces bonbonnes étaient intacts, laissant à penser qu'elles étaient destinées à remplacer celles qui alimentaient présentement la tente où gisait la vieille femme. Jamais Nathalie n'avait affronté une telle puanteur. Elle entendit un léger bruit et découvrit deux rats fouillant le tas d'assiettes sales et de draps jaunis. Les rongeurs ne prêtaient aucune attention aux autres occupants de la pièce, comme si celle-ci n'avait jamais abrité un être humain. Et tel était le cas, pensa soudain Nathalie. Les trois cadavres ambulants remuèrent les lèvres à l'unisson.
« Va-t'en »
dirent-ils d'une voix d'enfant capricieux.
« Je n'ai plus envie de jouer !»
Le visage de la vieille, allongé et déformé par le plastique de la tente, oscilla et sa bouche édentée produisit un bruit de clapotement. Les trois pions levèrent la main droite à l'unisson. La lumière verte émanant du moniteur accrocha les lames de leur scalpel. « Ils ne sont que trois ?» pensa Nathalie. « Ils auraient dû être davantage, mais elle était trop épuisée, trop terrifiée pour y réfléchir. Plus tard. Pour l'instant, elle voulait dire quelque chose. Elle ne savait trop quoi. Peut-être expliquer à ces zombies et aux monstres qui les manipulaient que son père avait été, était, une personne importante, bien trop importante pour se faire tuer comme un figurant dans un mauvais film. Tout le monde méritait mieux. Quelque chose comme ça. Mais la créature, qui avait été un chirurgien, s'avança lentement vers elle. Les deux autres la suivirent, et Nathalie se contenta de bondir sur sa gauche, de briser le seau d'une bonbonne d'oxygène, de l'ouvrir au maximum et de la lancer de toutes ses forces sur le docteur Hartman. Elle le rata. La bonbonne était incroyablement lourde. Elle tomba par terre avec un bruit épouvantable, fit tomber Nancy Warden à la renverse et roula sous le lit à baldaquin, emplissant la chambre d'oxygène pur. Hartman leva son scalpel et lui fit décrire un arc descendant. Nathalie recula d'un bond, mais pas assez vite. Elle poussa un chariot à roulettes vers le chirurgien et baissa les yeux pour découvrir que son chemisier était déchiré et se couvrait d'écarlate. Kelley entra dans la chambre, rampant sur les coudes. Nathalie sentit la rage qui l'habitait atteindre de nouveaux sommets. Elle, Saul, Rob, Cohen, Jackson, Poisson-Chat, ils étaient tous allés trop loin pour s'arrêter là. Saul apprécierait peut-être l'ironie de la situation, mais Nathalie haïssait l'ironie. investi de cette force qui permet à une mère de soulever l'automobile qui vient d'écraser son fils, à un homme d'affaires de transporter un coffre-fort hors d'un immeuble en flammes, Nathalie souleva au-dessus de sa tête la deuxième bonbonne d'oxygène et la jeta au visage du docteur Hartmann. La valve se brisa lorsque la bonbonne et sa cible s'écrasèrent sur le plancher. Nancy Warden rampait vers elle. L'infirmière Oldsmith leva son scalpel et bondit sur elle. Nathalie jeta un drap taché d'urine sur l'infirmière et esquiva son attaque. La silhouette fantomatique alla se cogner à l'armoire. Une seconde plus tard, la lame du scalpel commença à déchirer le mince tissu. Nathalie avait attrapé un oreiller grisâtre et elle s'en faisait un tampon tout en courant lorsque la main de Nancy Warden se referma autour de sa cheville. Nathalie tomba de tout son long sur le tapis élimé, tenta de se dégager à coups de pied. La mère de Justin avait perdu son scalpel, mais elle s'accrochait des deux mains à la jambe de Nathalie, apparemment résolue à la tirer sous le lit avec elle. À moins d'un mètre de là, Kelley se dressait sur le seuil. Ses abdominaux avaient été déchiquetés par la balle, et il était suivi d'un sillage de viscères qui s'étendait jusque sur le palier. L'infirmière Oldsmith acheva de se débarrasser de son suaire et pivota lentement comme un mime rouillé.
« Arrêtez !»
hurla Nathalie à plein poumon. Elle s'escrima sur la pochette d'allumettes, la laissa choir, la rattrapa, gratta une allumette tandis que Nancy Warden la forçait à avancer d'un pas vers le lit, essaya de mettre le feu à l'oreiller. Il refusa de prendre. L'allumette s'éteignit. Kelley lui empoigna les cheveux. Les mains toujours libres, Nathalie alluma une seconde allumette, mit le feu à toute la pochette et approcha sa torche éphémère de l'oreiller, résistant à l'envie de la lâcher lorsqu'elle lui brûla les doigts. L'oreiller s'enflamma aussitôt. Nathalie leva le bras et le lança sur le lit. Saturé par l'oxygène qui montait dessous le lit, le baldaquin, les draps et les montants en bois explosèrent dans un geyser de flammes bleues qui monta jusqu'au plafond avant d'arroser les quatre murs en moins de 3 secondes. Sentant l'air se réchauffer, Nathalie retint son souffle, se débarrassa d'un coup de pied de la torche vivante qui la grippait par la cheville et se prépara à fuir. Kelley l'avait lâchée, mais s'était redressée en même temps qu'elle. Il lui bloquait le passage. Pareil à un cadavre à moitié étripé qui aurait déserté la table d'autopsie. Il serra Nathalie dans ses bras et la fit valser. Sans cesser de retenir son souffle, elle vit la vieille femme sur le lit s'agiter frénétiquement, au sein d'une boule bleue de flammes concentrées, corps calciné, anguleux, désarticulé, une sauterelle en train de frire et de se désintégrer sous ses yeux, et la vieille femme poussa un cri suraigu qui fut repris une seconde plus tard par l'infirmière Oldsmith, Nancy Warden, Kelley, le cadavre du docteur Hartmann et Nathalie elle-même. Dans un ultime sursaut d'énergie, Nathalie força Kelley à faire un tour sur lui-même, puis franchit le seuil et s'effondra sur le palier au moment même où explosait la deuxième bonbonne. Le corps de Kelley la protégea des flammes, et la maison s'emplit durant une seconde de l'odeur de la viande rôtie. Le géant ouvrit les bras lorsqu'ils heurtèrent le coin de mur près de l'escalier, et Nathalie dévala les marches roulées en boule pendant que la torche vivante passait par-dessus la balustrade et allait s'abîmer au milieu des débris du chandelier. Nathalie resta étendue sur les marches, le visage collé au barreau de la rampe. Elle sentait la chaleur venant de l'étage, et voyait le reflet des flammes dans les éclats de cristal qui parsemaient le sol, mais elle était trop épuisée pour se relever. Elle avait fait de son mieux. Des bras robustes la hissèrent, et elle les frappa faiblement de ses poings aussi mous que des balles de coton.
« Du calme, Nat. J'ai besoin de l'autre bras pour Marvin. »«
Jackson !»
Le grand noir la soutint de son bras gauche, traînant son ex-chef de la main droite par le devant de sa chemise. Nathalie aperçut confusément une pièce tout en verre au mur fracassé, un jardin, le tunnel obscur d'un garage. Le minibus attendait dans la ruelle. Jackson l'installa doucement sur le siège arrière, puis alla étendre Marvin sur le plancher du compartiment bagage.
« Mon Dieu, « Quelle journée !»
marmonna-t-il. Il s'accroupit près de Nathalie et essuya son visage couvert de sang et de suie avec un linge.
« Nom de Dieu, t'es vraiment dans un sale état !»
Nathalie humecta ses lèvres craquelées.
« Laisse-moi voir !»
murmura-t-elle. Jackson lui passa un bras sous les aisselles et l'aida à se redresser. La maison Fuller était la proie des flammes, et l'incendie avait gagné la demeure des Hodges. Entre les deux bâtiments, Nathalie aperçut des camions de pompiers, des véhicules et des badauds qui bloquaient la rue. Deux lances tentèrent vainement de maîtriser le sinistre, pendant que d'autres arrosaient copieusement les toits des immeubles voisins et les arbres de leur jardin. Nathalie se retourna et découvrit Saul, assis auprès d'elle, lorgnant les flammes de son regard de myope. Il la regarda, lui sourit, secoua la tête d'un air incrédule et se rendormit. Jackson cala une couverture enroulée sous sa tête et l'enveloppa dans une autre. Puis il descendit, ferma la portière et s'installa au volant. Le petit moteur démarra au quart de tour.
« Mesdames et messieurs, la visite est terminée. Il faut qu'on foute le camp avant que les flics et les pompiers s'amènent par ici. »
La circulation devint fluide à moins de 3 rues de distance, mais ils croisèrent néanmoins quelques véhicules de secours qui fonçaient vers l'incendie. Jackson rejoignit la Highway 52 et prit la direction du nord-ouest, passant devant le parc qui donnait sur le port, puis dans le quartier des motels. Sur Dorchester Road, il rejoignit l'Interstate 26 et sortit de la ville en passant par l'aéroport. Nathalie s'aperçut qu'elle ne pouvait pas fermer les yeux sans avoir des visions de cauchemar et sentir un cri monter dans sa gorge.
« Comment va Saul ? »
demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jackson lui répondit sans se retourner.
« Ce type est fabuleux. Il s'est réveillé assez longtemps pour me dire ce que tu allais faire. »
Nathalie changea de sujet.
« Et Marvin ? »
« Il respire.
Pour le reste, on verra plus tard. » « Poisson-chat est mort !»
dit-elle sans pouvoir contrôler le tremblement de sa voix.
« Ouais. Écoute, bébé, d'après la carte, il y a une aire de repos quelques kilomètres après l'Hudson. Je m'arrêterai pour nettoyer tes blessures. Je panserai tes estafilades et te mettrai de la crème pour brûlure. Et je te ferai une piqûre pour que tu puisses dormir. »
Nathalie hocha la tête et ajouta
« Ok.
Nat, tu sais que t'as une grosse bosse sur le front et que t'as plus de sourcils ?» Il la regardait dans le rétroviseur. Nathalie secoua la tête.
« Tu veux me raconter ce qui s'est passé là-bas ?»
demanda doucement Jackson.
« Non. »
Nathalie se mit à pleurer en silence.
« Comme ça faisait du bien. »
« Ok, bébé. »
Il commença à siffler un air, puis s'interrompit.
« Merde. Moi qui voulais seulement me tailler de cette ville de merde pour retourner à Philly, et voilà que c'est la retraite de Russie. Enfin, si quelqu'un nous emmerde avant qu'on arrive à l'ambassade d'Israël, il va le regretter. »
Il brandit un calibre 38 à crosse de nacre et le planqua aussitôt entre les deux sièges.
« Où as-tu trouvé ça ?»
demanda Nathalie en essuyant ses larmes.
« Je l'ai acheté à Daryl. Tu n'es pas la seule qui soit prête à financer la révolution, Nat. »
Nathalie ferma les yeux. Les images de cauchemar étaient toujours là, mais elle avait un peu moins envie de hurler. Elle se rendit compte que Saul Lasky n'était pas le seul à avoir renoncé au droit de faire ses propres rêves.
Du moins pour un temps.
« Je viens de voir un panneau, » dit la voix grave et rassurante de Jackson. « On approche de l'aire de repos.